Merci beaucoup à tous les intervenants, non seulement d'avoir respecté le temps, mais d'avoir facilité le travail et de laisser justement la possibilité à la salle de réagir et d'interagir. Donc je vous donne la parole. Tout de suite, Jocelyn, une question et ensuite Elie.
Une petite question pour Pierre-Yves. Je vais prendre le rôle un peu du Brazilien orthodoxe. Puis je me demande si la critique n'est pas un peu trop sévère au fond. Je me demande tout le travail qu'on peut faire à partir donc, du tournant institutionnaliste de RAS, puis en partant de la structure de base de la société comme objet, puis la conception de la justice distributive qui en découle. Je me demande, par exemple, avec une théorie de la justice comme celle de RAS, si on n'est pas déjà capable de justifier plusieurs normes qu'on va imposer donc, aux entreprises. Je pense, par exemple, sur quelle base on va justifier d'imposer les profits des entreprises ou d'imposer les gains en capital ou les dividendes et ainsi de suite, si ce n'est pas à partir d'une conception, par exemple, de justice distributive et égalitariste qui dit, bon, il faut redistribuer une partie de la richesse vers les moins bien. Même chose pour, par exemple, une norme comme celle de l'équité salariale. Une firme donc, doit traiter de façon équitable ses employés, peu importe le genre. Il me semble qu'encore là, on peut justifier une telle norme à partir d'une conception donc, de la justice distributive comme celle de RAS, des régulations comme celle qui vise à faire en sorte que les firmes internalisent donc, les externalités négatives, et ainsi de suite. Donc, il me semble qu'on peut peut-être faire plus de travail que ce que tu laisses entendre à partir d'une telle conception. Puis je me demandais aussi, pour reprendre l'exemple des relations de pouvoir, des hiérarchies au sein des entreprises, encore là, quelle va être la base morale qui va nous permettre de les condamner, puisqu'est-ce qu'on est très loin d'une conception de la justice. Moi, il me semble plutôt que une théorie comme celle de RAS donc, demeure à plusieurs égards, lorsqu'on cherche à thématiser des questions précises, demeure très indéterminée, insuffisamment spécifique. Une bonne partie de notre travail consiste à rendre donc, nos théories plus spécifiques par rapport aux objets thématiques. C'est clairement mon cas quand je travaille sur les sociétés séculières, sur la laïcité, sur la liberté de conscience. Je ne peux pas simplement m'en tenir à RAS. C'est insuffisamment spécifique. Je me demandais si on n'était pas plus dans ce genre de dynamique-là aussi avec les questions qui, toi, t'intéressent.
Ben, écoute, moi, ce qui me trouble dans le cas de RAS et la posture qu'on peut qualifier d'institutionnaliste de RAS, en fait, c'est qu'on peut, on peut, comme tu essaies de le faire, de formuler un récit qui est beaucoup plus... beaucoup plus fécond, beaucoup plus intéressant. Jusqu'à présent, bon, peut-être que je me fie un peu à ce qui a été fait dans la littérature, dans le domaine, donc les rares travaux qui essaient de penser l'articulation entre la philosophie politique et l'entreprise, par exemple, et généralement les arguments qui sont invoqués sont de nature rawlsienne, pourrait-on dire. On nous dit, mais il ne faut pas nécessairement jeter un regard sur ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise parce que, par exemple, contrairement à l'État ou à la structure de base de la société, il est tolérable d'imposer, par exemple, des conceptions assez substantielles de ce que c'est qu'une vie bonne ou ce que c'est que, essentiellement des conceptions perfectionnistes. Donc, lorsqu'on est dans des associations qui relèvent du domaine privé, on peut aller dans ce sens. Ce qui, moi, me semble assez farfelu. On va insister également, encore une fois, en insistant sur la remarque rawlsienne selon lesquelles, bon, par exemple, ce sont des choses qui relèvent plutôt de la vie associative. On va nous dire, avec ce qui est bien avec les associations, en fait, c'est que les individus qui sont membres peuvent exercer un droit de sortie. Donc, c'est l'argument classique. Encore une fois, lorsqu'on fait ce genre d'argument-là, généralement, on essaie d'inscrire le tout dans une espèce de récit rousing. Est-ce qu'on peut faire un récit qui est beaucoup plus généreux à l'égard de Rance, peut-être? Mais il me semble que ça n'a pas été encore fait dans le domaine.
Adina, c'était la réflexion en fait.
Ok, d'abord, merci à tous les intervenants pour une occasion très intéressante. Et j'ai un commentaire un peu provocatif qui porte surtout sur la communication de Pierre-Yves, mais en fait, je veux vraiment que d'autres personnes dans leurs avis sur cette question, mais qui me préoccupe en fait. Moi, pour dire la vérité, je trouve assez bizarre cette idée de appliquer une théorie de la justice dans un domaine, comme tu sais en fait, dans un domaine particulier, surtout l'entreprise ou même la santé, l'environnement et tout ça. Moi, je trouve que ça, c'est en fait, c'est une mauvaise approche. Et c'est mauvais surtout dans un sens pragmatique, parce que s'il y a une place pour l'éthique appliquée, disons, pour l'éthique de l'environnement, pour l'éthique des affaires et tout ça, je pense qu'il faut en fait trouver une place plus particulière pour ces questions-là, et pas seulement appliquer une théorie de la justice d'une manière qui peut donner des résultats assez contradictoires. Si on applique la même théorie, l'égalitarisme, qui n'est pas la même théorie, mais quand même, dans tous les domaines dont on est intéressé, ça va donner des résultats, je pense, assez bizarres. Qu'on ne peut pas avoir les résultats qu'on veut dans tous les domaines. Et donc, selon moi, cette approche, c'est un peu contre-productif.
Oui.
Donc, s'il y a d'autres gens qui ont des commentaires sur ça, je serais très intéressé.
Chacun aura un mot, je suppose. Pierre-Yves, on te donne la parole, mais ensuite.
Mais donc, ce dont nous avons besoin dans cette optique-là, qu'est-ce que c'est exactement? Donc, c'est une théorie de la justice.
Mais c'est pas une théorie de la justice, c'est ça.
Au sens... je veux dire, mais toi, tu en appellerais... Donc, tu dis, il ne faut pas appliquer une théorie de la justice à différents domaines, même en santé, même en environnement, même dans d'autres domaines.
Pas dans l'entreprise.
Ah oui. Donc, donc pour quelle raison exactement? Je référais à l'égalitarisme au sens le plus général possible, là, une certaine tradition de penseurs qui aspirent à réaliser ce qu'on peut qualifier d'une certaine égalité substantielle, matérielle, au-delà de l'égalité formelle. Il me semble que c'est un problème de taille si on lui dit, ouais, mais donc vous êtes pour l'égalité, vous défendez l'égalité, mais vous l'abandonnez. À partir du moment où on se concentre sur une sphère d'activité X ou Y, vous abandonnez vos idéaux d'égalité. Ça m'apparaît extrêmement troublant.
Mais ça dépend de quelle égalité on parle.
Oui.
Parce qu'on peut avoir quand même l'égalité dans la société, oui. Un genre d'égalité.
Oui.
Et ça ne porte pas à l'égalité sur dans l'entreprise, disons. Et en plus, ton exemple avec... Le problème d'uriner au travail, je pense que ce n'est pas vraiment un problème de hiérarchie et d'égalité, c'est quand même un problème de droits fondamentaux.
Ouais.
Qui on peut dire, ok, les directeurs d'entreprise n'ont pas le droit de...
Mais en disant ça, tu mets en lumière le caractère problématique de la forme d'autorité qui est exercée.
Mais on ne sait pas, a priori, si c'est problématique, je pense.
Oui, on va. Alors, chacun va répondre. Je voulais donner la parole à Ernest qui s'est présenté et ensuite Peter. Je vais juste dire un mot, peut-être que, Adina, est-ce que tu as en tête, par exemple, l'idée que la théorie de la justice va s'appliquer à une. Disons, dans les termes rawlsiens, puisque c'est toi qui les as apportés sur le débat, sur une structure institutionnelle avec donc
oui,
structure de base d'institution, mais que ça va pas rentrer.
Ça
va... Oui, mais. Et que les principes seront différents au sein même des différentes institutions. On voit bien, par exemple, l'embarras de Rawls à penser la justice au sein de la famille.
Parce que
d'un seul coup, cette institution, alors même qu'elle fait partie de la structure de base, elle échappe aux principes de justice, en fait. Donc il y a peut-être effectivement cette tension que...
Je pense que si on ne se concentre pas sur ce genre de choses-là, si on ne s'intéresse pas au genre d'objets que j'ai en tête, par exemple, la réflexion sur la justice qui porte sur la justice ou l'injustice concernant les écarts de revenus, si on n'a pas une idée, une certaine certaine idée de ce que c'est que la gouvernance d'entreprise, les problèmes posés par le fait que les dirigeants d'entreprise sont de manière générale capables de s'imposer, de s'attribuer, bref, à eux-mêmes des salaires complètement, complètement ridicules. Je ne sais pas, il me semble qu'on gagne quelque chose lorsqu'on a un peu plus d'ancrage institutionnel là-dessus.
Alors, Ernest, puis Peter.
Je voudrais me référer à un cas bien connu ici au Québec, mais peut-être pas dans le même sens que moi. Le cas des accommodements raisonnables qui ont été institués ici au Québec en 2007 avec la commission Bouchard-Télon. Donc, à ma connaissance, les accommodements raisonnables sont nés aux États-Unis et avec pour vocation justement de s'appliquer dans le monde des entreprises. L'obligation était faite aux entreprises de tenir compte d'un certain nombre de particularités concernant certains employés, par exemple sur la durée du travail, sur les heures de travail, etc. Et je me souviens, mais très vaguement, je ne peux pas donner plus de précision, d'une jurisprudence qui porte sur une femme qui, en raison de ses convictions religieuses, ne pouvait pas travailler le samedi. Donc, si l'affaire a été prise en charge par les institutions publiques, donc s'il y a une décision, une sentence de justice qui a été rendue là-dessus, bon, c'est vrai que ça illustre empiriquement la possibilité pour un État de se préoccuper des questions de justice au sein de l'entreprise et voir comment les institutions publiques peuvent s'assurer que au sein des entreprises, on réalise une certaine idée de justice, une certaine idée d'égalité. En tenant compte précise de certaines spécificités. Bon, je voulais juste signaler ce cas pour voir si ça. C'est une réponse empirique, mais peut-être qu'il ne résout pas le problème d'un point de vue théorique. Mais bon.
Alors, juste sur ce cas qui date de 63, alors c'est un peu plus vicieux quand même, c'est que l'État ne voulait pas non plus donner d'allocation chômage à la personne qui avait été mise à la porte, parce que c'est une question de dommages et de tort exclusif de l'entreprise ou de la personne. Donc, c'est une manière aussi de dire non, l'entreprise doit se charger de ce genre de choses, elle ne peut pas se décharger totalement justement de l'accommodement et puis transférer les coûts à la collectivité. Mais c'est vrai que c'est un cas qui est quand même à la limite intéressant. Oui, Peter, vous voulez...
Oui, je partage le souci d'Adina. Alors, une chose qu'on ne veut pas faire, c'est de prendre une théorie normative et de l'appliquer dans un contexte particulier. Ça nous ramène un peu au débat de ce matin avec Christian et Daniel. Alors, une idée qui était pour moi implicite dans ce débat ce matin, c'est une chose que les philosophes et les éthiciens peuvent amener au débat. C'est une réflexion sur la justification de certains arguments, alors de faire des distinctions et de justifier des arrangements sociaux d'une manière plus profonde que autres intervenants le font. Alors, si ça se fait sur une base rawlsienne, tant mieux. Moi, j'ai pas de chat particulier à fouetter à ce moment-là. Alors, il y a différentes manières de le faire, hein, mais ce qui est important, c'est d'amener cette base justificative, mais de commencer par la question éthique qui se pose. Alors, c'est là où je suis d'accord avec Adina, que c'est le point de départ qu'on devrait choisir.
Une réponse de Laurent.
Oui, ben, en trois points. Donc, la première chose, c'est de dire qu'une entreprise n'est certainement pas une entreprise de non-droit. Et dès lors, fatalement, elle est régie par les mêmes règles qui doivent régir toutes les interactions humaines. Et le cas de René, par exemple, me semble relever plutôt de ça. Là où c'est fondamentalement différent, c'est si on commençait à considérer qu'une entreprise doit être organisé comme une communauté politique. Et donc, ça doit être un fonctionnement démocratique en son sein, qu'un principe de neutralité s'applique. C'est totalement différent, me semble-t-il, comme question. Et là, par contre, je serais très classique, ça me semble totalement excessif de considérer une entreprise comme une société politique, et donc de lui appliquer une théorie de la justice. Quoique, on pourrait nuancer sur un point, me semble-t-il, c'est que de plus en plus, un certain nombre spécifique d'entreprises ont une taille telle qu'elles ont un impact sur le bien commun et qui n'est plus un impact marginal. Ce sont des acteurs qui ont un impact d'emblée direct sur le bien commun. Et dès lors, en tant qu'acteur ayant le même poids, parfois un poids plus important que l'État sur le bien commun, on pourra avoir des exigences de justice beaucoup plus fortes sur ces entreprises-là. Mais je veux dire, là, on aura un critère qui sort du cadre classique de l'entreprise et qui ne s'applique pas à toutes les entreprises, mais à un pourcentage très minime, même si on soit très important par leur pouvoir. Enfin, ce n'est pas toutes les entreprises.
Et un dernier mot donc de Dominique.
Oui, c'est intéressant ta question, en fait, parce que ça ressemble quand même un peu aussi, je pense, à ce que Frédéric disait dans le sens qu'il reprochait aux éthiciens de l'environnement de prendre théorie en éthique, juste l'appliquer à l'environnement. Moi, je pense en fait qu'il y a deux choses qu'il faut faire. La première, c'est que, c'est sûr que si on prend la théorie de Rawls qui établit une distinction quand même ferme là, entre les structures de base de la société et qui définit sa théorie comme s'appliquant aux structures de base de la société, ça montre ça peut-être de manière moins évidente, mais il y a d'autres théories, d'autres formes d'égalitarisme de la chance, par exemple, qui n'établissent pas une distinction aussi ferme. Et ces théories-là sont susceptibles d'avoir des implications sur ce qui se passe à l'intérieur des entreprises aussi. Okay? Et je pense que même la théorie de Rawls, en fait, aurait des implications sur le droit d'aller pisser dans une entreprise. Là. Donc, définitivement, une des choses qu'il faut faire... dans une toilette, dans une entreprise. Donc, une des choses qu'il faut faire, c'est dégager les implications de nos conceptions de la justice, les pousser un peu plus loin parce qu'elles ont des implications sur ce qui se passe à l'intérieur des entreprises. Ça, c'est la première chose. Évidemment, et là, je pense que ça va un peu dans le même sens que toi, il va quand même rester un espace qui sera non spécifié. Par exemple, si une théorie établit une distinction entre sphère publique et sphère privée et considère que la justice s'applique uniquement à la sphère privée, forcément, il va rester un espace où cette théorie-là n'aura rien à dire, elle ne sera pas complètement exhaustive sur ce qui se passe à l'intérieur des entreprises. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'il faudra descendre, pas dans le sens péjoratif du terme, là, mais il faudra descendre à des théories plus contextualisées, plus des théories de la moralité à l'échelle individuelle, qui ne sont pas nécessairement des théories de la justice. Mais il y a définitivement une place pour faire ces deux choses-là. Et la première chose, donc ce que Pierre-Yves nous demandait de faire, n'est pas du tout fait en ce moment.
Merci. Alors, on a le temps de discuter. Hein. On a une liste qui commence à s'allonger. Juste pour que personne s'impatiente, d'abord Frédéric Armstrong parlera, ensuite Jean-Philippe Royer, Christian Nadeau et Martin Levin.
Je me permets d'envoyer des fleurs en racontant une anecdote. Il y a 3 ans, à peu près, jour pour jour, j'entrais dans le monde du libéralisme politique. Par l'entremise de Pierre-Luc Néron, avec lequel j'ai appris à peut-être apprécier, alors que je le critique toujours, le libéralisme politique, mais il y a un événement, en fait, lors du cours qui est arrivé, où Pierre-Yves nous présente les thèses de Nozick. Et il demande à la classe qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous avez des commentaires à faire à cette pensée. Je ne sais pas s'il va s'en rappeler, mais j'avais répondu de manière provocatrice.
Mais non, c'est jamais ça.
Pour ceux qui me connaissent, ça les étonnera pas. Et bref, après la question, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous répondrez lié à Robert Nozick, j'ai répondu tout simplement non. Point. Et ça finissait là. Et lorsqu'on me demande maintenant de commenter sur ce qui vient de se passer, j'ai envie de répondre oui. Point.
À
la présentation de Pierre.
Merci. Ouais. Alors, merci, ça n'appelle pas de...
C'est quoi ta réponse?
On était dans quel monde?
Tu ne réponds pas, c'était le but. Voilà. Jean-Philippe, s'il te plaît.
Oui, j'ai une question pour Pierre-Yves. Je ne sais pas si tu es saturé à
non, ça va, je suis...
Bon. C'est que, tu as mentionné Rawls et Cohen dans ton exposé, donc je vais te poser une question même si tu viens de là. C'est à propos particulièrement de Jerry Cohen. Je veux revenir sur ce bout-là de ton exposé quand tu as mentionné la critique que Jocelyn a aussi soulignée, là, que Cohen fait de l'institutionnalisme, si on peut dire ça comme ça, de Rawls. En fait, je vais faire une petite explication puis je vais poser une question assez ouverte là, ensuite. C'est que j'ai une interprétation qui n'est pas celle qui a été standardisée dans la littérature là, de la critique de Cohen, mais je peux un peu la différencier. C'est que d'habitude, grosso modo, comme ce que Philippe Van Parijs, par exemple, a fait, c'est de dire, OK, ce que Cohen nous dit, c'est les principes qu'on voudrait voir s'appliquer à la structure de base, il faut les penser dans une éthique individuelle. Et ça, ça a fait l'objet d'un des articles au début des années 90 de Philippe. Bon, à mon avis, c'est pas comme ça que je lis la contribution de Cohen. Je crois que Cohen, ce qu'il distingue, c'est quatre objets potentiels de la justice, dont les structures formelles, donc qui sont l'objet par excellence Rawlsien, selon lui, les structures informelles, la famille, et là, Rawls tergiverse un petit peu, l'éthos social et le comportement individuel. L'éthos social, c'est un ensemble de normes, et Cohen, si je me souviens bien, juste après sa phrase célèbre « Where the action is », là où l'action se passe, pour désigner ce lieu-là de potentielle application de la justice, il va dire « L'éthos social, c'est ce qui guide et fait que le comportement individuel est tel qu'il est dans une société. Ce n'est pas le comportement individuel, donc ça n'a rien à voir avec une éthique individuelle. » C'est un ensemble de normes sociales qui influencent, qui influent sur le comportement individuel. Et donc, maintenant que... C'est comme ça que je comprends finalement la contribution de Cohen. Maintenant, je veux savoir, si tu l'appliques à l'éthique des affaires et au monde de l'entreprise, quels seraient des exemples de normes sociales sur lesquelles on pourrait agir et la justice aurait une emprise? Et la question épineuse pour moi, parce que c'est tout ce que je viens de dire, c'est un peu une interprétation qui a influencé ma propre réflexion dans un autre domaine d'application. Et le problème auquel on se bute rapidement, c'est de savoir comment on agit sur les normes sociales pour les modifier en fonction d'un idéal de justice. Parce qu'au niveau de la structure institutionnelle, on modifie la structure institutionnelle, mais les normes sociales, c'est quand même... on n'a pas le même levier sur les normes sociales qu'on a sur les structures institutionnelles. Et donc, il y a un peu deux questions. Si tu as des exemples et comment... Est-ce que tu as une stratégie pour pouvoir avoir un effet sur l'état social?
Est-ce que Christian, tu voulais envoyer
sur... Simplement que moi, j'avais à peu près le même type de préoccupation, mais plus généralement pour l'ensemble du groupe. C'est-à-dire, là, je vais paraître extrêmement ringard, mais ce qui m'étonne toujours lorsqu'on parle de considérations en philosophie de l'économie ou en éthique des affaires, c'est qu'il semble qu'on accepte un certain type de paradigme et on ne s'interroge pas, par exemple, sur l'appropriation des moyens de production. Donc, en fait, la question que je me posais, c'est, pour faire suite à ce qui a été dit sur Cohen, c'est est-ce qu'on pourrait imaginer quelque chose comme une philosophie de l'économie, dans la perspective qui est la vôtre, qui aurait... ou porter sur des institutions comme sur le marché, mais par exemple dans la perspective du libertarisme de gauche, donc qui s'interrogerait davantage sur l'appropriation des moyens de production et les effets que ça a sur les structures de marché, par exemple, ou sur les dynamiques d'échange, comme parce que ce matin, par exemple, je crois que c'est toi qui parlais du mouvement coopératif. S'il y a très peu de littérature en éthique des affaires dans, Philosophy and Public Affairs, il y en a peut-être encore moins, par exemple, sur quelque chose comme le mouvement coopératif.
Je vais donner la parole à Pierre pour qu'il réponde, d'abord directement à Jean-Philippe, parce que c'était des questions très précises, et puis ensuite à Christian, mais j'aimerais que tout le monde puisse répondre justement à Christian.
Monde peut répondre aussi à ma question.
Faites comme vous voulez.
Donc, je répondrai en fait à Jean-Philippe, premièrement en disant que ta conceptualisation des choses m'apparaît en fait beaucoup plus intéressante que ce que j'ai fait. Donc je pense que c'est ce qu'il faut utiliser. Ça m'apparaît une bonne manière de donner un sens à l'idée selon laquelle, d'une certaine manière, les entreprises ou la vie économique est en partie associative, donc en insistant non pas simplement sur les institutions formelles, mais également sur toute la gamme des institutions informelles, il me semble qu'on peut y aller, on peut donner un peu plus de chair à mon projet. Pour répondre à Christian, oui, je suis d'accord avec toi. Et par exemple, il y a une littérature absolument fascinante qui est un peu en émergence, là, notamment grâce à des gens comme Martin O'Neill, qui travaille beaucoup sur la notion de démocratie de propriétaire chez Rawls et les implications pour la vie économique des organisations économiques. Ça, je pense que c'est... Il y a des trucs sur la démocratie d'entreprise et des trucs très intéressants qui se font sur la défense philosophique de des modèles d'entreprise centrés non pas sur les intérêts des actionnaires, mais sur les intérêts des employés. Donc, il y a des choses qui commencent à se faire. Axel Gosserie travaille sur ce genre de choses à la chaire à Hoover. Je voulais dire un autre truc concernant Cohen, en fait, ça me permet de rebondir, et, parce qu'une des choses que Cohen a très bien faites, c'est d'insister beaucoup sur, notamment sur les incitatifs, en fait, et sur la façon dont les plus fortunés demandent certains incitatifs à agir. Ça, c'est intéressant, et il me semble que c'est un bon exemple de cas dans lesquels on réalise qu'une fois qu'on a une bonne, peut-être une meilleure compréhension du caractère institutionnel des débats, on fait autre chose qu'appliquer des théories comme ça. Par exemple, les débats sur le salaire des dirigeants d'entreprise. L'évolution ça me permet de faire des remarques sur ce que Peter a écrit également en introduction et de parler un peu de Patrick et son sur la juste part. L'évolution des débats sur le salaire des dirigeants d'entreprise est telle qu'au départ, on invoquait deux stratégies classiques pour justifier les très grands écarts, c'est-à-dire une justification de type libertarienne dans laquelle on dit les salaires des dirigeants, c'est le résultat des accords, des négociations. Et peu importe le résultat, s'il y a un processus de négociation qui est tout à fait libre, il peut y avoir des salaires extrêmement élevés. Également, on essaie de justifier ça en insistant sur le mérite individuel. Donc, l'idée étant que les dirigeants méritaient tout simplement, étant donné le niveau de responsabilité, de compétence, machin. Ce qu'on réalise dans l'évolution de la littérature, et Patrick et David le mentionnent dans leur livre, La juste part, c'est qu'en fait, il y a eu un mouvement tel que les économistes ne parlent pas du tout, en fait, de ce genre de justification-là. Ils insistent uniquement sur l'idée selon laquelle les salaires extrêmement élevés sont des incitatifs au travail futur. Ce n'est pas le reflet du mérite individuel des dirigeants d'entreprise. Ce sont uniquement des incitatifs pour le travail futur des dirigeants d'entreprise. Et il me semble que les théories égalitaristes, par exemple, de la justice contemporaine, sont très bien équipées pour répondre à la justification utilitariste ou celle basée sur le mérite. Mais en ce qui concerne la justification basée sur les incitatifs, on est beaucoup moins... on est moins bien équipés, en fait.
Parce que Cohen a exactement un exemple sur ça en comparant l'éthos, ce qu'il va appeler l'éthos de la reconstruction après la Deuxième Guerre mondiale en Grande-Bretagne, et en montrant que c'est un éthos qui a maintenu ce plus petit écart entre les dirigeants d'entreprise britanniques et leurs employés versus les dirigeants d'entreprise américains et leurs employés. Donc c'était un ensemble de normes sociales. Les gens volontairement étaient... impliqués dans un projet de reconstruction, et c'est ces normes sociales-là qui ont eu une influence positive de justice.
C'est plus qu'un mot. Peter voudrait répondre, et puis Laurent, je ne sais pas si les autres panélistes également. Tour de table, pas trop long.
Non, je serai bref, mais en réponse à la question, moi je dirais que le type de réflexion que tu proposes sur l'appropriation des moyens de production ne serait pas seulement possible dans le cadre de réflexion qui est proposée ici, je crois que là on serait d'accord, mais il est même exigé. Hein. Alors ça, c'est une des institutions, même une institution très fondamentale, qui a un effet important sur la distribution à plusieurs niveaux. Hein. Mais l'autre chose à dire, et ça me rappelle, c'est une intervention que Daniel fait souvent, c'est que, alors, quand on s'engage dans ces réflexions normative, alors il faut décider ce qu'on prend pour acquis et ce qu'on met sur la table de discussion. Alors, je crois que pour pas mal de discussions dans ce contexte-là, pour avoir un impact réel court terme, alors ceci serait une question qu'on prendrait pour acquis. Ça ne voudrait pas dire que je pense qu'elle n'est pas importante, mais c'est quelque chose que beaucoup de réflexions prendront pour acquis, juste pour pouvoir
aborder d'autres thèmes.
Merci beaucoup, Peter. Laurent?
Alors, plutôt en réponse à Jean-Philippe, bien d'accord avec la distinction notamment entre le niveau des normes plus formelles et des normes informelles, mais il ne faut pas croire que c'est deux niveaux hermétiques. Au contraire, il y a énormément de porosité entre les deux, et un des rôles le plus important du politique hors structure de base, un des rôles les plus importants du politique, c'est justement d'être le lieu de réflexion, de réflexivité ou de formalisation de ces normes informelles à un moment donné pour les contester, les transformer. Et lorsque le politique se prononce formellement, il va influencer l'évolution des normes informelles. Ce pourquoi d'ailleurs, hein, comme dans la présentation Marc le disait, ce pourquoi je conteste que le politique ne devrait pas se préoccuper du bien. Au contraire.
Oui,
une réponse à Jean-Philippe, c'est pas vraiment une réponse, mais je veux dire que je suis vraiment complètement d'accord avec ce que tu as dit. Je suis d'accord avec la critique de Cohen. Ça offre peut-être aussi une réponse à la question d'Adina, dans le sens que s'il faut vraiment agir au niveau des normes sociales de l'État, ça montre jusqu'à quel point là, on peut dégager des implications d'une théorie de la justice qui vont vraiment être pénétrantes, disons. Pour la question de Christian, tout à fait d'accord avec toi. La seule chose que je soulèverais, c'est que, bon, quand on fait donc de l'éthique économique ou de l'éthique des affaires, on est peut-être dans une perspective qui est plus appliquée, où on est moins un niveau théorique fondamental. Mais ça s'appuie, idéalement, on aimerait que ça s'appuie sur certaines théories morales plus compréhensibles, comme le libertarisme ou comme l'égalitarisme de la chance. Et toi, tu nous dis, est-ce qu'on pourrait faire certaines de ces... bâtir quelque chose sur une position libertariste de gauche, par exemple? Oui, ce serait intéressant. Mais je pense que c'est important, quand on veut aller très, très loin en dégageant les implications, des implications concrètes d'une théorie pour la société... Il faut peut-être s'assurer que ces bases fondamentales-là sont aussi déjà présentes dans la population. Et je ne sais pas jusqu'à quel point les institutions fondamentales derrière le libertarisme de gauche reflètent celles des Québécois en 2012, par exemple. Mais c'est une question que je pose, tu as peut-être quelque chose à répondre là-dessus. Personnellement, j'ai l'impression que l'égalitarisme de la chance peut-être reflète un peu plus certaines des institutions qui sont politiquement présentes dans la société.
Là, c'est ce que tu voulais dire. Alors, Martin Leblanc et ensuite Alain Renaud.
Oui, je suis enthousiasmé par ce projet-là d'élargir la réflexion sur la justice au-delà de la structure de base, là, au sens plus strict, au sens rasien, puis d'aller voir ce qui se passe dans l'entreprise, puis même dans la famille. D'ailleurs, les premières critiques de Rawls, les féministes, on va approcher Rawls de ne pas élargir sa réflexion sur la justice au-delà de la structure de base pour aller voir ce qui se passe par exemple dans la famille. Donc, l'entreprise aussi, c'est intéressant. Et là, tu dis, si on pense la justice dans l'entreprise, l'interlocuteur pour un progressiste ou quelqu'un qu'un Rawlsien, ce serait plutôt qu'un libertarien ou un utilitariste, en fait, ce serait plutôt un conservateur. En fait, le problème que je vois, ou le défi, c'est qu'il n'existe pas vraiment de philosophie politique conservatrice, ou en tout cas, elle n'est pas explicite comme le libertarisme ou l'utilitarisme. Fait que là, la question que j'avais te poser, c'est est-ce que le progressiste devra passer par le travail fastidieux de définir ce qu'est la philosophie politique conservatrice, peut-être un peu comme ce qu'il essaie de faire Christian Nadeau avec son livre, là, contre Hopper, là. C'est-à-dire comme donner plus de chair à ce qui est finalement plus quelque chose comme une idéologie qui est dominante, là, qui existe, mais qui n'est pas au niveau de philosophie politique comme on l'entend, en tout cas comme les philosophes l'entendent. Fait que est-ce que ça va passer par ce travail-là un peu fastidieux, puis peut-être
Oui, c'est ça. C'est la raison pour laquelle je disais que l'avenir, en fait, du domaine des théories de la justice passe peut-être par le conservatisme, ce qui est horrible d'une certaine manière, parce qu'il faut travailler sur le conservatisme. Mais je pense que c'est une position qui est dominante, en fait, qui est dominante dans la société. Et je pense que oui, il faut essayer de retravailler, il faut travailler à la reconstruire d'une certaine manière. Et je pense, bon, comme tu l'as mentionné, c'est quelque chose que Christian a essayé de faire. Mais sinon, c'est un des problèmes, c'est extrêmement difficile de trouver des défenses, des articles, par exemple, des articles de journaux. Dans les journaux académiques, on va trouver des milliards d'articles sur les implications X et Y de l'égalitarisme de la chance. Ça, il y en a à fond, à profusion. Hein? Mais des articles du genre une position conservatrice par rapport à X ou Y, ça... on le trouve pas. Mais néanmoins, il me semble qu'il y a quand même des postures, des positions qui sont d'inspiration conservatrice. Dans le domaine de l'éthique des affaires, c'est le cas, je pense, pour le dire de manière un peu rapide et controversée, la domination de l'éthique des vertus dans l'éthique des affaires. Je pense que c'est le reflet de la position conservatrice. Donc, on a des grosses institutions économiques qui posent toutes sortes de problèmes du point de vue de la justice, de l'égalité, mais hein, mettons un peu de vernis de l'éthique des vertus et ça va aller. Hein. Et si on s'en remet à la bonne figure de l'autorité managériale, qui est évidemment souvent un mec dans la cinquantaine, dans la soixantaine, et si celui-ci est vertueux, ah, tout va bien aller. Ça, je pense que c'est un reflet de la position conservatrice. Mais je pense qu'il faut travailler à faire ce genre d'espèce, comme tu dis, peut-être le travail un peu chiant. Je pense qu'il faut le faire. C'est Hayek, d'ailleurs, qui disait que, en fait, peut-être même l'une des forces en fait de la position conservatrice, c'est que c'est pas une philosophie principielle. On prend pas des principes et on les applique. C'est une posture, c'est une sensibilité qui est liée à la défense d'un certain ordre social et qui est extrêmement puissant dans la société, qui attire tellement de gens que il faut travailler à le reconstruire pour le déconstruire.
Je voudrais donner la parole à Arnaud et ensuite, vous répondrez chacun votre tour. On fera un dernier tour de table ici, et puis on lèvera la séance.
Merci. Je voudrais faire une remarque un peu générale par rapport à des choses que j'ai entendues là, dans la salle, et puis du couloir tout à l'heure, par rapport à la première partie de la panique. Voilà. D'une certaine façon, je n'avais pas du tout découvert ici les théories de la justice, mais j'avais mesuré... au cours des années 80, ici, l'importance qu'elle pouvait prendre dans les débats tels qu'ils se déroulaient à ce moment-là, avec une certaine admiration aussi, avec le sentiment que ça pouvait donner lieu à une ritournelle et à un dogmatisme assez rapidement. Et puis, nous sommes tous entrés dans ce type de problématisation des inégalités, comme les autres, évidemment. Et là, je vous retrouve, c'est pas les mêmes, mais c'est quand même le genre de personne, une vingtaine d'années après, visiblement, vous êtes dans une autre phase. Vous êtes dans une phase, ça s'entend de la salle, de la table et des deux parties d'après-midi, par moment, pas toujours, mais de problématisation des théories de la justice, notamment dans leur vertu applicative. C'est-à-dire, visiblement, c'est devenu une espèce de... À un certain moment, je ne sais pas quand, mais c'est devenu une espèce de ritournelle. Théorie de la justice appliquée à la médecine, aux inégalités de genre, éventuellement à la justice globale, etc. Et, pardonnez-moi, je parle comme ça pour gagner du temps, vous en avez marre. Ça donne l'impression que par moment vous en avez marre et que du coup vous prenez ça d'assez haut. Et moi je voudrais vous dire juste deux choses. Je voudrais vous dire d'abord que quand on travaille sur des inégalités, quelles qu'elles soient, d'une certaine façon en philosophie politique, c'est ce que nous faisons tous, on pose deux types de questions. On a besoin de deux choses. On a besoin d'abord de savoir à quels principes se référer pour apprécier si elles sont justes ou injustes. Elles sont acceptables ou inacceptables, équitables ou inéquitables. Alors ça ne consiste pas effectivement à faire pouf. Non, je pense que ça peut être une démarche inverse, ça peut être une démarche réfléchissante où on vise des paramètres à partir d'un quantum d'inégalité dans tel secteur, etc. Mais il faut bien se référer à quelque chose comme un des principes pour les évaluer, les apprécier et savoir ce qu'il faut en faire. Donc, vous ne contournerez pas la référence à des principes. Ce n'est pas le problème. Deuxième remarque. C'est pour ça que l'ironie sur le principisme me paraît faire référence à un type d'usage des principes qui n'est précisément pas celui qu'on peut faire des principes de justice. On le tient ou pas, ce n'est pas mon problème, n'est-ce pas ? On a évoqué l'égalitarisme de la chance, on a évoqué même à l'instant Mlozi. Peu importe la batterie de principes, ou le principe, ou les principes qu'on prend, mais il faut bien se référer à quelque chose comme des normes de ce type pour, encore une fois, estimer que certaines inégalités sont acceptables ou non. Et puis, vous avez ensuite une deuxième question qui va achever de vous faire sortir de l'idée que c'est de haut en bas et que ça fait pouf. C'est que vous avez une autre question qui est de savoir qu'est-ce qu'on égalise hein, et qu'est-ce qu'on fait pour égaliser. C'est la question du distribuant d'âme, c'est la question d'Amartya Sen. Quelle égalité? Égalité de quoi? Et de même que vous pouvez avoir une typologie des principes de justice, vous pouvez avoir une typologie des approches à la réponse égalité de quoi. Et vous avez aussi besoin de ça, approche par les ressources, approche par la capacité, approche par le bien-être, par exemple, pour simplifier. Si vous combinez les deux, vous avez à ce moment-là une démarche qui n'est pas celle sur laquelle vous ironisez, ou semblez ironiser, ou certains d'entre vous ironisent, relativement à la démarche du type théorie de la justice appliquée. Parce que ce que je vous suggère là, et dont je ne vois pas comment vous y échappez, dans vos propres pratiques, par exemple par rapport aux inégalités économiques, si vous fonctionnez comme ça, vous n'avez pas une posture du philosophe qui soit une posture de surplomb, ni par rapport à la question 1, ni par rapport à la question 2, ni par rapport à la question des principes auxquels on se réfère de manière réfléchissante, ni par rapport à la question 2, à savoir quoi distribuer et quoi répartir en priorité pour réduire les inégalités. Est-ce qu'il faut répartir d'abord des ressources, d'abord des capacités ou du bien-être? Vous n'avez pas de surplomb de n'importe quel philosophe qui arrive, et je reprends votre formule, pouf, on applique ça, et ça on le fait tomber dessus, et c'est réglé. Non, nous n'en sommes plus là. Mais pour autant, pourquoi ne pas considérer que des théories de la justice et de ce qui a suivi, c'est-à-dire notamment la théorie des approches des inégalités, nous avons hérité des pratiques d'application qui ne sont pas du tout réductibles à ce que vous stigmatisez et dont vous avez marre, mais qui relèvent de ce que je suis en train, sommairement et grossièrement, de vous décrire, et je m'arrête là.
Merci. Alors, comme l'a dit un grand monsieur, les premiers seront les derniers seront les premiers. On va commencer par Peter et puis on finira par Laurent. Je vous donne 2 minutes pour qu'on puisse clore dans les temps cette séance. Hein.
Je suis d'accord avec la première proposition, je suis en désaccord avec la deuxième proposition. Alors, la première proposition est de dire alors, il faut conserver l'approche philosophique qui est de projeter des principes, des idéaux qu'on peut utiliser comme des aspirations vers lesquelles on se dirige. Alors, moi je vois ça comme une branche de la réflexion en éthique, en philosophie économique qu'on peut pratiquer. Une autre, c'est justement de développer ces principes à partir d'un problème pratique concret. Mais c'est tout à fait compatible. Alors on est tout à fait d'accord. La deuxième proposition, par contre, par rapport au distribuendum de l'égalité, moi je trouve toujours que chez Sen, il y a une lacune énorme là dans ces passages-là, parce qu'il ne nous dit pas pourquoi l'égalité dans la distribution de X, Y ou Z est d'emblée quelque chose qu'on devrait viser. Hein? Alors si c'est une distribution égale ou une distribution inégale de quoi que ce soit, ça dépend justement de la réflexion sur le premier point qu'on met de l'avant.
Ça dépend de la réflexion sur le premier point, ça dépend de la démarche qu'on adopte quand on part d'un champ qui peut appeler des types de réponses et à la question 1 et à la question 2 qui sont différents. Si votre domaine c'est les inégalités économiques, si votre domaine c'est les inégalités de genre, si vous voulez, moi j'adopterai une position qui sur ce point-là est contextualiste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une réponse de haut en bas. C'est pourquoi je partage votre agacement sur les théories de la justice appliquées telles qu'on les a pratiquées, disons, ces 20 dernières années, simplement en faisant varier le champ d'application, mais en fonctionnant avec les deux mêmes principes de justice, et puis en disant, voilà, ça donne des politiques qu'on peut déduire a priori. Là, le philosophe s'est rendu insupportable. Je pense que là, c'est pas ce
Pierre-Yves, une minute.
Ben, moi, concernant les questions d'application et de la manière dont on applique des principes, je voulais pas créer une expression avec bon. Mais je sais pas, en fait, moi, ce que je souhaite voir dans le domaine de l'économique, de l'éthique économique, c'est l'émergence de quelque chose de similaire à ce qu'on a vu dans les domaines de ce qu'on pourrait appeler, je sais pas, les théories de la justice culturelle, pourrait-on dire, ou les théories qui se sont penchées sur la gestion de la diversité culturelle. Il me semble que dans ce domaine-là, on a vu des travaux absolument exemplaires sur les bonnes manières, en fait, de faire des théories de la justice. On a vu des philosophes qui étaient qui étaient très sérieux par rapport aux principes, mais qui étaient également extrêmement sensibles aux réalités politiques concrètes, aux modalités institutionnelles en vigueur pour gérer la diversité. Donc, il me semble que c'est extrêmement exemplaire. Et dans le domaine économique, il me semble qu'on voit un peu moins ça des théoriciens de la justice qui sont sensibles à toute une gamme de modalités institutionnelles, de réalités concrètes, de modes de fonctionnement, de patterns distributifs. Et donc, c'est un peu ce genre de choses-là que j'aimerais voir, là, un peu des travaux, je ne sais pas, à la Kimnica, mais dans le domaine de
D'accord.
Dominique Do.
OK, je vais essayer d'être bref. J'en ai pas marre. Je suis tout à fait partisan de ce type d'approche-là.
Cela dit, je suis bien content que la bioéthique ait réussi à passer à autre chose après le principisme de Beauchamp et Chambers et que l'éthique des affaires soit sur le point de passer à autre chose après la théorie des parties prenantes et que nous soyons peut-être passés à autre chose après la moralité kantienne.
Ernest. Ouais, je voulais juste exploiter la distinction bien connue entre monde idéal et monde non idéal en disant que ça suggère une piste pour trouver des solutions à ce genre de d'embarras par rapport à la question de savoir qu'est-ce qu'on met dans une théorie de la justice, comment est-ce qu'on envisage l'application d'une théorie de la justice. Donc, il me semble que ces deux paliers de réflexion au niveau du monde idéal, du monde non idéal, suggèrent quelques pistes. Et je pense comme exemple en particulier à Thomas Pogge quand il réfléchit sur les questions de la pauvreté et qui précisément renonce à. Même s'il a beaucoup utilisé la théorie de Rawls en concevant une sorte de justice distributive à l'échelle internationale, mais après, quand tout ça est traduit en principe ou en principe de politique publique, on le voit plus hésitant et préférer, par exemple, ce qu'il appellerait des obligations négatives qui s'imposeraient à des organisations internationales précisément. Et en ce moment, il s'agit plus d'exiger que des organisations internationales réalisent telle forme de justice, promeuvent tel type de distribution, hein, mais simplement de les inviter à ne plus violer ou à ne plus mettre en place un certain nombre de mesures, de dispositifs normatifs, économiques, institutionnels qui pourraient avoir pour effet de créer des inégalités graves ou d'autres situations inacceptables.
C'est vrai que j'ai. Enfin, je ne sais pas si c'est ça qui. Si mon intervention participe au sentiment que vous avez eu, mais donc c'est vrai que j'ai terminé en disant qu'il fallait que cette économie normative ne reste pas dans le confort de la situation idéale, mais je suis pas. Voilà. Enfin, juste sur ça, ce que je voulais dire, c'est qu'en tout cas, moi, je pense que le moment idéal est absolument indispensable. Dans mon intervention, j'insistais aussi pour qu'on ne s'en contente pas, c'est-à-dire qu'on fasse un pas de plus aussi et qui. Je ne pense pas que vous allez aller en compte, qu'il y ait aussi une réflexion sur la capacité du changement, donc une réflexion sur l'action en identifiant les leviers, mais pour le reste, je pense qu'on est tout à fait d'accord.
Alors, je vous remercie d'abord.